Bienvenue aux auditeurs de Radio Galère, bienvenue aux auditeurs fidèles ou occasionnels de l'émission « Une heure en Palestine », émission qui est diffusée chaque mercredi de 18h à 19h. Cette émission « Une heure en Palestine » est animée par différentes associations qui luttent pour la justice en Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association nationale AFPS, Association France-Palestine Solidarité, qui anime cette émission. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi. Vous trouverez sur notre site assopalestine13.org de très nombreuses informations concernant la Palestine, le Moyen-Orient et les actualités récentes. Le site est mis à jour quotidiennement, avec aussi des pages culturelles, sportives et bien sûr l'actualité palestinienne à Marseille, les événements, les films, les pétitions. En parlant de films, je vous signale que le magnifique film « 200 mètres » de Amir Nefeh, avec le grand comédien Ali Souliman, est toujours à l'affiche du cinéma La Baleine. Les prochaines séances seront samedi 3 juillet à 14h, mardi 6 juillet à 13h45, dimanche 11 à 13h et la dernière, le samedi 13 juillet à 21h30. Et je pense que cet horaire sur le 13 juillet, en fin de soirée, est un clin d'œil à une séance très émouvante du film. Donc ne manquez pas ce film, il est vraiment très très intéressant. Et j'avais envie de remercier en notre nom La Baleine de faire vivre ce beau film aussi longtemps. Faites-lui honneur. Dans l'actualité encore, la campagne du mouvement BDS, Boycott des investissements sanctions, campagne intitulée Israël hors du Tour de France. En effet, alors que les attaques contre les Palestiniens et les Palestiniennes font toujours plus de victimes, alors que les situations de ces derniers et dernières ne cessent de s'aggraver, on ne peut imaginer aujourd'hui la vie à Gaza, martyrisée par les bombardements récents israéliens, sans électricité continue, avec de l'eau polluée, avec la pandémie. Alors que la situation ne cesse de s'aggraver et que les tentatives de normaliser la colonisation se multiplient, Israël utilise le sport, et notamment l'événement très populaire qu'est le Tour de France, pour blanchir sa politique criminelle. Le Tour de France ne devrait pas accueillir une équipe qui vise à redorer l'image d'un pays ou qui pratique l'apartheid et commet des crimes contre l'humanité. La campagne proposée clame non au blanchiment de l'apartheid par le sport et nous incite à manifester notre désaccord, en particulier en brandissant des drapeaux palestiniens lors des passages du Tour de France. Vous trouverez plus de détails sur le site www.bdsfrance.org. Sur le site aussi, nous en reparlerons en fin d'émission, mais je commence quand même à en parler, vous trouverez le détail d'un événement biannuel qui est très intéressant, qui s'appelle Palestine en campagne et qui se déroulera en Aveyron du 13 au 15 août 2021 avec nos partenaires Fixouk. Nous en reparlerons en fin d'émission. Lors de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec un grand monsieur. Un Palestinien qui vit dans notre région, qui vit à la fois un exil cruel et à la fois universel, qui s'appelle Sami. Avant de lui donner la parole, je vais demander à Philippe, qui est en studio avec moi, de vous dire comment, où et à quelle occasion il a rencontré Sami. Philippe, dis-nous tout.
Oui, ben d'abord, merci encore à Claire et Émilie de Palestine 13 et puis à Radio Galère avec Sidi de nous accueillir. Et donc, j'étais là au début de l'automne dernier pour parler d'un événement qu'on a créé qui était un événement nautique, une croisière alternative et solidaire qui s'appelle la route du Zatar. Alors, on ne va pas réexpliquer ce qu'est le Zatar, mais quand même, ça désigne toutes les variétés de thym qui sont autour de la Méditerranée et qui pourraient relier tous ces peuples qui sont autour de la Méditerranée. Et donc, nous sommes partis le 18 octobre dernier, destination la Corse, destination la Sardaigne. Et malheureusement, arrivé en Sardaigne, il étant reconfiné, on a développé nos étapes en Corse. Et nous sommes arrivés début novembre à Porquerolles, hein, les fameuses îles d'Hier, où nous sommes restés plus d'une semaine. Alors, en tant que marin méditerranéen, j'ai dû aller 1000 fois à Porquerolles, mais ou en famille, ou pour faire des régates, etc. Alors que là, j'avais à bord de mon bateau donc des produits palestiniens, dont a un peu parlé Claire, dont on reparlera, importés en Aveyron et distribués par fipsouk.fr, des vins varois également du domaine Gavotti. Et donc, le but était d'abord de bien nourrir les équipages de ces voiliers, et puis ensuite arriver aux escales, d'en distribuer à des gens qui en avaient commandé, et puis à terme de ramener en Méditerranée du Nord des produits de Méditerranée du Sud. Et donc, arrivé à Porquerolles, une dame artiste qui vit et travaille sur l'île, qui s'appelle Sabine, qui fait partie des dames qui développent un petit journal en ligne qui s'appelle Porquerolles Info, découvrant ces voiliers avec des voiles peintes, avec des drapeaux palestiniens, a fait venir à bord un homme, Samy en l'occurrence. Et donc c'était très émouvant pour lui de voir un voilier avec d'abord le drapeau palestinien, et puis ensuite avec des dattes medjool, des bières de Palestine. Et donc on a rapidement échangé. Et c'est là que je comprends que ce Samy, donc, après avoir été paysan en Palestine, eh bien, à ce moment-là, en automne dernier, il travaille depuis 15 ans, me dit-il, au domaine de l'île de Porquerolles. Alors c'est un domaine historique, c'est ces îles qui sont magnifiques, qui servent en particulier de conservatoire d'espèces méditerranéennes végétales, recueille aussi plusieurs vignobles. Et donc Samy me raconte voilà, son travail sur l'île. Et puis bon, cette route du Zatar se termine à Marseille fin novembre. Mais je reste en contact avec Samy parce que cet homme que certains pourraient considérer, et c'est noble, hein, comme un simple vigneron, il est beaucoup plus que ça. Et je comprends en ce moment-là que dans sa vie d'exilé palestinien, il a côtoyé des gens extraordinaires comme par exemple Mahmoud Darwish, qui pour moi est un poète extraordinaire de la Méditerranée, mais également Nadji Alali, ce fameux caricaturiste qui a créé ce personnage Andala. Et donc je me dis que la rencontre a été trop courte et on reste en contact. Et ça reste encore un moment fort d'avoir rencontré ben voilà, cet Ilien grâce à la route du Zatar. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup vécu en mer, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr qu'à Porquerolles, il a pu observer la mer qu'il voyait peut-être beaucoup plus jeune de chez lui, en Palestine. Et donc voilà, c'est ce qui nous a reliés. Et donc, on va entendre Samy. Je ne vais pas dévoiler son état, mais si j'ai bien compris, donc le domaine de Lille a été racheté il y a quelques années par une filiale de LVMH. Et c'est ce qui lui a valu des conditions de travail difficiles. Mais enfin, pour revenir à la mer.
Voilà. Alors, je vais vous faire languir. Je suis une vraie méchante. Donc, avant de vous faire entendre Samy, avant de l'interroger pour qu'il nous dise tout sur sa vie, on va écouter une chanson que Samy a choisie, une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Devinez, la mémoire et la mer ».
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe où je meurs. De ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe, un bateau. Ça dépend comment on l'arrime au port, de justesse il pleure, de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où lui c'est le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure. De ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consume au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale. Des paradis dans le matin mouillé de mousse revient. Fille verte des fjords revient, violon, des violonnades dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades. Parfum rare des salants dans le poivre feu, des gerçures quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurant sous les sunlights cassés liquides, joue de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain, où je m'aveugle.
Samy, merci. Merci sincèrement de nous avoir permis de diffuser cette chanson magnifique. Vraiment, on pensera à toi chaque fois qu'on l'entendra. Donc maintenant, je te donne la parole et je te demande de nous parler de ta mémoire à toi. La première partie de ta vie, jusqu'en 1983, la date de ton arrivée en France. Samy, palestinien de Porquerolles, à toi la parole.
Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Samy, je suis né à Nazareth en 1960. Donc à l'époque, Nazareth, c'était encore une petite ville qui est composée particulièrement en fait des grandes familles palestiniennes et beaucoup de réfugiés qui sont venus en fait de toutes les villes et les villages qui ont été détruits. Donc c'est un souvenir qui est un peu amer et à la fois très joyeux. Amer, c'est parce que la souffrance, elle est tout le temps présente dans les yeux des adultes, sinon on la sentait, mais on ne la comprenait pas. C'était joyeux, c'est parce que c'était chez nous. Donc, un des souvenirs qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est mon premier jour pour aller à l'école. Donc, l'école, à l'époque, c'était des maisons qui étaient louées sous le service de l'ONU, parce qu'en fait, Israël n'existait pas. On n'avait pas la nationalité, on était apatride chez nous. Donc, il fallait aller à l'école l'après-midi, pas le matin, parce que le matin c'était pour les grands, et l'après-midi c'était pour les gens de mon âge, de 6 ans. Et c'était merveilleux, c'est parce qu'entrer dans une classe avec tous les gens que je connaissais, parce que c'était une école de quartier, et puis de voir le tableau, et de voir la craie, et on n'avait pas de cahier, on n'avait pas de livre, et on écoutait tout simplement. Voilà, et après, la vie... En Palestine, c'est, je préfère que vous me posiez des questions parce que ça fait remonter, disons, une adrénaline qui est un peu à la fois amère et à la fois me ramène vers des souvenirs lointains qui me dérangent encore.
Voilà. Oh là là. Et pourtant, il va falloir que tu nous en parles. De ton adolescence, tu as grandi, tu as quitté l'école. Comment était la vie Et puis finalement, raconte-nous tout, comment tu es arrivé en France.
En fait, pour vous expliquer, j'ai eu une chance une nuit, et quand je suis entré au collège, donc j'avais 12 ans, eh bien, il n'y avait pas de place pour moi dans l'école des garçons. Donc on m'a mis dans une école de filles. Donc c'était quelque chose qui m'a marqué le plus dans ma vie, et cette école se trouvait à côté de siège de parti communiste. Donc c'est un parti que je connais particulièrement bien, et que je côtoyais pendant très longtemps, donc j'ai eu une chance encore beaucoup plus grande, en fait, c'est d'avoir rencontré des personnages qui y sont toujours, des personnages qui sont déjà dans notre monde, et qui ont appris énormément de choses. Et ces choses, surtout, c'est de voir l'avenir. Et l'avenir, c'était merveilleux, parce qu'il fallait changer les choses. Jusqu'en 1974, lorsque Tofik Zayad est arrivé au pouvoir, et il a dit une phrase qui m'a marqué aussi, voilà, être victorieux, c'est quelque chose, construire, c'est autre chose, allons construire. Et là, j'ai tout compris. Et il fallait être bâtisseur dans la vie et bâtir toujours quelque Ben, ça a duré jusqu'en 1977, lorsque j'ai quitté l'école, après traîner un peu à droite et à gauche, puis un bac avec une mention. En 83, j'ai rencontré mon ex. Et à partir de là, ben, j'ai décidé de quitter mon pays et de venir m'installer en France. Donc en France, ben, certainement, moi je suis un anglophone, je parle trois langues, arabe, hébreu et anglais. Et je ne connaissais pas un seul mot en français. Donc pour arriver à apprendre le français, je me suis inscrit à l'université pour faire des langues orientales, donc arabe, hébreu et persan. L'arabe et l'hébreu, je les maîtrisais parfaitement, et le persan, c'était une langue que je ne connaissais absolument pas, donc que j'ai découvert. Et grâce à l'arabe et l'hébreu, j'ai appris le français. Donc, comme je n'avais pas les moyens à l'époque de me payer l'université, donc je travaillais à l'époque aussi, vendre des livres au sein de l'université. Et comme ça, je me suis construit une petite personne qu'on appelle aujourd'hui Sami.
Et alors, Philippe disait que tu as connu Mahmoud Darwish. Dis-nous tout.
Mahmoud Darwish, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois dans ma vie, une fois à Aix-en-Provence, une fois à Paris. Ouais. Et puis après, un peu de coup de fil, surtout quand elle était malade. Et puis surtout, de connaître sa poésie. Et j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi en Palestine comédien. Donc, j'ai joué dans le premier théâtre qui a été créé par Riyad Massaroui, qui est un grand monsieur qui est décédé maintenant, qui a créé en fait le nouveau théâtre, un théâtre légèrement, je dirais, qui sort de l'ordinaire, parce que Riyad a fait ses études en RDA à l'époque, et il est arrivé avec de nouvelles idées. Donc on a joué déjà les poèmes de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, pour nous, c'est un peu le dieu de la poésie palestinienne, parce qu'il a créé un lien très fort entre la parole et la mémoire, et en même temps, c'est toujours de ne pas se plaindre, toujours de ne pas constater le mal, toujours construire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez lui, et c'est comme ça. Et après, lorsqu'il est venu à Aix, je crois que c'était en 88, ou même un peu avant, donc en 92, je crois, en 92, il est venu, pour le premier printemps palestinien. Je l'ai rencontré, on a passé 2 jours ensemble, et après, je l'ai rencontré à Paris, puis après, c'était des échanges de quelques textes, quelques fois, parce que j'écris un peu de poésie aussi en arabe.
Ah ben dis donc, la chance, hein, comme on dit. Alors, tu étais comédien, tu étais linguiste, tu vendais des livres, et alors finalement, comment tu es venu à une vie paysanne? Comment ce retour à la terre, Sami?
Alors là, c'est toute une histoire. J'ai une chansonnier dans la vie, et moi je partais à une famille très nombreuse, tous les frères et sœurs. Et ma grand-mère, qui était enseignante à l'époque, de l'époque, un peu la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à elle est décédée en 77. Donc comme j'avais en 68, elle était fatiguée, donc je suis allé vivre avec elle, et c'est un mariage mixte en fait. Ma grand-mère paternelle, c'est la sœur de mon grand-père maternel. Le frère et sœur sont retrouvés parce que mon grand-père maternel a perdu sa femme et ma grand-mère paternelle a perdu son mari. Donc je me suis retrouvé avec eux, et mon grand-père était un grand monsieur et qui travaillait énormément de la terre. Et donc on avait beaucoup de raisins, mais on avait beaucoup de figuiers, bien entendu des amandiers, et travaillait surtout le sol. Et ça m'a marqué parce que je vivais en fait en ville et en même temps à la campagne. J'avais des poules, j'avais des chèvres, j'avais des moutons. Et j'ai appris énormément de choses grâce à mon grand-père par rapport à la taille des arbres, la taille de planter, quand il fallait arracher, quand il fallait arroser, gérer certaines choses. Par exemple, on n'avait pas l'eau parce que on n'avait pas comme Canal de Provence et compagnie. Et donc l'eau, c'était le puits ou bien. On avait une petite cascade juste à côté de la maison, donc on creusait un trou là-dedans, et on mettait la paille, et on mettait la terre, et hop, on laissait la pluie remplir complètement le trou, donc on avait une transformation de mus qui se faisait là-dedans, et en début de l'été, on plantait nos pieds de tomates, et on mangeait nos tomates et nos aubergines.
Merci, Sami.
Et ça, c'était la première chose qui m'a marqué, et après, à la recherche de moi-même, eh bien, je ne savais pas ce que j'étais, ni de savoir, en fait, si vous voulez, quel est mon chemin qu'il fallait que je choisisse. J'ai rencontré une amie qui est décédée malheureusement maintenant. C'est avec l'âge, on ne commence plus à parler de mariage, on parle plutôt de décès. Et cette amie m'a fait découvrir le vin. Et en fait, quand j'ai débarqué en France, et j'avais un chalet, et avec ma compagne qui est toujours maintenant avec moi, je dis tiens, on va faire un potager sur le balcon et on va acheter des poules. Donc j'étais tout le temps, si vous voulez, dans la vie agricole. Et puis après, c'est ma connaissance et a été développée parce que je me suis intéressé aux champignons très tôt. Je me suis intéressé aux variétés des arbres, des plantes, ce qu'on appelle les plantes sauvages, ce qu'on appelle le comestible, le non comestible, le sol. Et ben, ça a toujours été quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et puis, à un moment donné, ma fille est née, je donne le commerce, ma compagne maintenant, il faudra qu'on choisisse notre métier. Qu'on choisisse notre métier, elle n'était jamais là. Et puis, je me suis renseigné pour passer mon diplôme d'œnologie et d'horticulture. Et un an après, ben, je me suis retrouvé dans le Var en train de faire le vin. Et puis là, ben, c'était la découverte de ma propre personne, la découverte de mon viticole. Et puis, je commençais à m'exprimer, à connaître bien le sol, c'est-à-dire surtout les saisons, surtout à travers les saisons, qu'est-ce que peut pousser, qu'est-ce qui ne peut pas pousser, pourquoi choisir cet endroit pour planter, pour ne pas choisir cet endroit pour planter, et après, comment il fallait faire pour avoir une belle qualité de raisin, et une fois que le raisin arrivait, donc c'était beaucoup plus l'artiste qui parlait, je faisais parler le raisin, une sorte d'extraction, si vous voulez, de la matière, et de les marier ensemble, de sortir un goût, et à partir de là, de dire, ok, maintenant, j'ai été vinifié, je vais être élevé, et une fois que je l'ai élevé, je vais le travailler pour extraire encore beaucoup plus de matière. Et à partir du moment que la mise en bouteille, c'était les arômes qui s'exprimaient, on dirait une parfumerie, c'est-à-dire une cave.
Oui. Ah, Samy, ce que tu dis me touche beaucoup, parce que finalement, ce qui nous réunit...
Je l'entends très mal, parce qu'en fait...
C'est bon, c'est dit ? Oui, je disais
attends,
que...
Je vais enlever le haut-parleur, parce que... Comme je travaillais la terre, donc je suis devenu un peu sourd avec l'autre acteur.
D'accord.
Non, j'ai oublié mes oreilles.
D'accord.
Je vais le mettre.
Oui, non, ce que tu dis me touche beaucoup parce que finalement, ce qui nous réunit, on s'est rencontrés sur une île entourée de mer, plantée de vignes. Et là, juste pour te dire que donc, moi, finalement, mon bateau hein, que tu as vu, qui a fait la première route du Zatar avec notre voilier, il est basé à Cassis, ville du vin aussi par excellence. Et à titre indicatif, dans cette ville de Cassis, il y a une magnifique fondation, la fondation Camargo, qui a lancé un appel d'offres pour différentes interventions à propos de Mahmoud Darwish. Alors, si on n'arrive pas à se revoir à Porquerolles, peut-être, qui sait, que Mahmoud Darwish pourra peut-être nous réunir à Cassis, à la Fondation Camargo.
Eh bien, écoute, je vais te dire maintenant que la disponibilité m'est autorisée. Malheureusement, avec mes problèmes, des petits problèmes mécaniques de santé, m'empêche maintenant de retourner et continuer à pouvoir m'exprimer en fait pour travailler le sol et faire le vin.
Oui.
Je vais avoir plus de temps et je vais consacrer beaucoup plus de temps en fait à des choses que j'ai toujours rêvé de faire. Un, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'humanitaire. Et deux, de retrouver ma Palestine, mais dans le sens pas de la lutte, pas de me plaindre, pas de pleurer, mais une Palestine comme n'importe quel pays au monde, dire ok, maintenant on a le droit d'exister en tant que personne avant de dire ok maintenant en tant que peuple on existe mais en tant que personne qu'on s'exprime comme tous les peuples de la planète qu'on chante l'amour qu'on chante la haine qu'on joue au foot qu'on joue au basket qu'on ait un drapeau qui nous permet en fait d'aller participer aux Jeux Olympiques de participer à nos compétitions et puis en même temps que les gens sachent qu'on arrête de faire des films tout le temps sur notre souffrance et notre mal-être. Voilà.
Donc on va chanter. Donc quand on a préparé cette émission, tu nous as dit que quand tu étais jeune, tu écoutais des musiciens engagés comme Cat Stevens. Et donc avant d'écouter le morceau que tu as choisi, Émilie va nous rappeler, va nous dire quelques mots sur ce chanteur Cat Stevens.
Stephen Demetre Georgiou, dit Cat Stevens, a marqué son temps de son empreinte et a rencontré un grand succès dans les années 70. Ce chanteur, musicien et auteur-compositeur est né le 21 juillet 1948 à Londres, d'une mère suédoise et d'un père chypriote. Cat Stevens, qui s'est rebaptisé Youssouf Islam, a enregistré en 2009 une chanson dont les droits sont versés aux Palestiniens de la bande de Gaza. The Day the World Gets Round, chanté à l'origine par George Harrison, peut être téléchargé sur plusieurs sites internet. Pour les basses, Cat Stevens a choisi Klaus Voormann, ami et collaborateur des Beatles. Les droits de cette chanson ont été versés à l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés, l'UNRWA, et l'ONG Save the Children, pour aider les enfants et les familles de la bande de Gaza cible d'une offensive sans précédent de l'armée israélienne durant 3 semaines, indiquait l'UNRWA dans un communiqué. Sur son site officiel, Cat Stevens a écrit qu'il espérait que cet enregistrement aidera les gens à se souvenir de l'immense héritage d'amour, de paix et de bonheur que nous pouvons partager. En 2010, Youssouf Islam entamait une tournée internationale. Aujourd'hui âgé de 72 ans, il s'est donc converti à l'islam au sommet de sa gloire en 1977 et se consacre désormais à l'éducation et des activités philanthropiques. Cette chanson peut être donc téléchargée sur jamalrecords.com.
Samy, donc Cat Stevens, non, on ne l'écoute pas non plus souvent à une heure en Palestine. Pourquoi ? Quelle chanson as-tu choisie et pourquoi ?
En fait, il y a deux choses, parce que c'est la deuxième chanson. La première de Léo Ferré, bon, déjà, quand j'ai découvert Léo Ferré, j'ai découvert un peu la beauté de la poésie, la force de mots. Il pouvait creuser n'importe où, faire jaillir le sentiment. Et puis en même temps, c'est la musique qui est à la fois, cette chanson, c'est à la fois, c'est la parole forte et en même temps l'appel à la détresse. Cette détresse qui empêche la personne d'être ce qu'elle veut être. Et puis en même temps, je l'ai dédié à tous ceux qui sont morts en Méditerranée, à la recherche d'une meilleure vie. Moi, j'ai vécu ça quand je suis arrivé ici en France. J'ai eu la chance d'être avec une carte de séjour maintenant. Et je vis tranquillement. Mais tous ceux qui torpillent avec cette détresse, cette solitude sur un bateau vers un monde meilleur, mais en fait, c'est souvent le cimetière qui les attend en pleine mer. Et puis la deuxième de Cat Stevens, c'est aussi la sagesse qu'on peut acquérir. Ça s'appelle Tea for a Gentleman. Cette chanson qui va chanter, en fait, c'est pas son passé qu'il présente là-dedans, c'est surtout le conseil qu'il donne aux jeunes. Vivez votre vie et c'est la joie et la gloire qui vous attend. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il ne va pas se plaindre. Et il ne va pas dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais fais ça, parce que ça va te rendre heureux. Et la vie, c'est quoi, après tout ? C'est être heureux.
Merci, Samy. On écoute Cat Stevens.
Think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Skip what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, changing day to day. But tell me, where did the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass. For your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough. But you know they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way, changing day to day. But tell me, where do the children play? Mm-hmm.
where you crack the sky. Scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Yes, will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Hey, hey. Do 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 do. Do 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 do.
Merci Samy. Alors là, nous avons une émission d'une heure en Palestine très originale. Léo Ferré, Cat Stevens qui donne des conseils aux jeunes. Mais alors là, vraiment, je suis très fière d'être avec toi. Donc, pour la deuxième partie de cette émission, je te redonne la parole. Hein, bien sûr, tu es un Palestinien. Alors, on a vu poète, comédien et œnologue. Et là, on va parler de la terre. Hein, c'était vraiment l'objet de notre émission, du monde agricole, de la vigne en particulier, de son évolution, de ta passion. Donc, Samy, à toi la parole.
Bon, en fait, avec la terre, il y a des choses qui m'ont toujours passionné. Et la terre, c'est une composition, ce qu'on appelle une texture avant tout. Elle est composée de ça. Après, on a quelque chose qui va entrer là-dedans, qui va la faire vivre. Et cette terre qui vit avec moi depuis de longues dates, je la découvre toujours avec une mixture, en fait, de quelque chose qui va aller là-dedans. Et c'est tout à fait le contraire de la vie humaine, de la mort va naître. Et avec cette naissance, on a quelque chose qui va sortir et qui va prendre son temps pour sortir et qui va s'exprimer dans le milieu là où il va se trouver. Et en Palestine, il y avait quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est les quatre saisons. Et Philippe parlait de Zaatar, je vais vous dire à quoi ça ressemble une vie de l'époque en Palestine, surtout avec les Zaatar. Les Zaatar, en fait, c'est une plante aromatique qu'on appelle de temps en temps ici le thym palestinien. C'est une plante qui pousse dans la rocaille. C'est une plante qu'on ramasse, qu'à un moment donné, et à l'époque, c'est un peu avant Pâques. Donc on va la couper et on va la faire sécher. Mais il n'y a pas que le Zaatar. Le Zaatar, c'est un aliment qui est nécessaire pour le Palestinien parce qu'il est important pour le petit déjeuner. Le Palestinien, dans sa nourriture générale, c'est une nourriture toujours de réserve. Le Zaatar, c'est une partie de sa réserve pour l'hiver, comme le fromage blanc à l'huile d'olive. C'est pour sa réserve. En fait, il y a toujours une réserve. Moi, j'ai vécu dans cette réserve tout le temps. Et puis, à chaque fois, on attendait que la plante pousse pour qu'elle sorte, comme le pissenlit géant, comme la mauve, qui sont des aliments qu'on mange beaucoup en Palestine. Certaines plantes sauvages qui ressemblent à la feuille de vigne. Le feuille de vigne, quand il faut les ramasser. Et cette terre, et je la vis tout le temps, parce que je l'attends, parce qu'en fait, j'attends de la réserve à chaque fois. Et puis, ma mémoire se remplit avec. Et puis, il y a quelque chose qui va naître, qui est complètement différent, que peut-être on abordera tout à l'heure. Pourquoi cette terre produit comme ça? Et qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est produit? Donc, il y a le côté olfactif qui va s'exprimer, qui va me rappeler toujours mon passé. C'est comme n'importe quel étranger qui va arriver dans une zone. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher le côté olfactif qui va lui rappeler son passé. Il va chercher le côté visuel qui va lui rappeler que peut-être celui-là, c'est comme moi. C'est un peu aussi la terre, c'est pareil. On va chercher toujours dans la terre ces genres d'aliments et d'éléments qui vont nous donner toujours cette possibilité de se retrouver. Et je ne sais pas si j'étais assez clair.
On a bien, merci. Là, tu nous donnes envie. Hein. Et alors, le produit dont tu voulais nous parler plus spécialement, c'est la vigne?
Bon, la vigne, c'est quelque chose qui fait partie, en fait, de ma peau, de ma pensée. La vigne, en fait, c'est un produit qui pousse tout seul. C'est une liane et qui se produit, en fait, d'une manière générale, sur le sol. Ben, l'homme est arrivé à la conduire, en fait, pour qu'elle produise. C'est un bonsaï. Et ce bonsaï, on va le travailler avec la taille. Et après, on va travailler tout le temps, jusqu'à ce qu'on arrive à faire du raisin.
D'accord.
On peut appeler ça le raisin de table, qu'on mange, le raisin de cuve avec lequel on fait du vin. Mais cette vigne, elle a quelque chose de très particulier. Elle est à la fois obéissante, qui va accepter qu'on la coupe, qu'on la massacre, qu'on la martyrise. En même temps, elle est rebelle. Ah ben, elle peut nous faire toujours des surprises. Donc, le dompteur de cette vigne, c'est moi en général, parce que je vais être tout le temps copain avec. Donc je vais lui donner tout ce qu'il faut. Pas forcément en mettant de l'engrais, mais c'est la façon de travailler cette vigne qui va me permettre en fait de lui dire « Ok, maintenant tu vas aller chercher la lumière de tel endroit. Je vais te planter dans tel endroit. Pourquoi je vais te planter ici, mais pas là-bas, tout simplement, parce que tu vas te plaire beaucoup plus ici. Je ne vais pas la martyriser avec tout le temps avec des produits chimiques, parce que je refuse de mettre des produits chimiques, parce qu'on peut toujours faire une alternance. En travaillant, on peut en biodynamie, hein, plus en connaissance de la plante elle-même. Et tout ça, ça me plaît parce qu'en fait, ce n'est pas un challenge, c'est une complicité avec la vigne. Je vais vous raconter quelque chose concernant le raisin. Vous savez que le vin se fait tout seul. Et on n'a pas besoin d'une vigne, la vigne n'a pas besoin de nous pour faire de vin. Mais pourquoi en fait? Tout simplement parce que vous prenez un grain de raisin. Un grain de raisin est composé des peaux. Cette peau est légèrement blanchâtre, cette couleur blanchâtre, c'est la levure qui est dessus. Celle qui permet la fermentation. Le jus, plus les cellules qui sont là-dedans, plus les pépins, sont les fruits de la pollinisation et de la fécondation. Quand une vigne va produire, comme c'est une plante qui va ramper sur le sol, donc il va produire beaucoup de raisins, au moment de la maturité des raisins, les raisins vont s'étacher, vont tomber par terre. La chaleur extraite grâce à la fermentation, grâce à ces levures, va éclater complètement la peau. Le jus va fermenter, va devenir de vin, et le vin va se transformer en vinaigre. Et la matière organique, grâce à la chaleur, va envelopper complètement les pépins qui sont là-dedans, et la vigne va faire sortir, en fait, elle nourrit ses propres enfants. Donc c'est avec cette matière organique, lorsque le pépin va éclore et faire sortir la plante, il aura toujours à manger autour. Mais ça, c'est dans la vie générale. Mais dans la vie de la vinification, c'est un côté beaucoup plus, je dirais, c'est une connaissance technique qui est très importante. C'est une connaissance chimique qui est très importante. C'est une connaissance, en fait, de travail et de manier le jus et le raisin qui est très importante. Mais ça, c'est le côté artistique.
D'accord.
À nous, en fait, si vous voulez, celui qui va faire le vin, de travailler le vin et d'extraire, en fait, toute cette partie qui se trouve à l'intérieur de ce jus, parce qu'il n'y a pas que le jus et le sucre, il y a aussi la matière qui fait le vin, qui va faire la couleur, qui va faire le goût. On va les travailler, on va les extraire, on va les développer. On va lui choisir une levure assez particulière. On va mettre le froid, on va mettre le chaud, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et l'essentiel, c'est de ne jamais être satisfait, parce que sinon, on fera toujours un monoproduit. Et on est tout le temps dedans. Donc, dire, OK, même si les gens disent, les vins étaient excellents, non, il manque quelque chose, l'année prochaine, je vais faire différemment. Et on attend toujours l'année prochaine. Et on travaille. Et on extrait. Il y a un... Vous pouvez trouver sur YouTube un petit reportage qui a été fait sur moi et Mehdi en France, je crois qu'en 96. Donc là, je parle plus en détail, donc on peut voir Samy en personne en train d'expliquer aux journalistes comment on fait, en fait, pourquoi on choisit ce raisin, comment on fait le vin, et puis en même temps de répondre aux questions des journalistes.
Nous mettrons le lien
donc,
sur le site.
Donc c'est sur YouTube, sur mon nom, Samy Adorati.
Et on le mettra sur le site, le lien sur le site de Palestine 13, comme ça on trouvera tous.
D'accord. Et Samy, du coup, on a prononcé ton prénom depuis le début, mais là, enfin on entend ton nom. Tu peux nous répéter ton nom, s'il te plaît, Samy?
Adorati, ça veut dire Samy, ça veut dire Sa Majesté.
Oui.
Adorati, c'est le père de printemps.
Le père du printemps.
Rabbi en arabe, c'est-à-dire Sami Abou Rabbi, A-B-U, loin Rabbi.
Voilà, ok, on mettra le lien donc, vers tes vidéos YouTube. Mais alors, du coup, ce que tu viens de nous dire sur la vigne, le raisin est vraiment extrêmement, effectivement, d'une part technique, mais finalement extrêmement poétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta relation à la vigne, mais cette fois sur l'île de Porquerolles, sur cette île incroyable entourée de mer où, a priori, c'est pas encore moins facile ici qu'ailleurs, peut-être, d'élever le raisin comme tu l'entends.
Ouais. Alors, en fait, le domaine de l'île se trouve en deux parties. Porquerolles, c'est une île qui se trouve, en fait, elle part de l'est en ouest. C'est une île qui est très étroite. Mais c'est une île, c'est la deuxième île agricole en France, en Méditerranée. La première, c'est la Corse.
Évidemment.
Porquerolles. Ouais. Et Porquerolles se trouve sur un sol qui est assez impressionnant. Et en fait, Porquerolles est un rocher, et avec la dégradation de son rocher qui est composé pratiquement que de schiste, qu'est-ce qui se passe? Le schiste, ça fait aussi une grosse partie de sable. Donc, le sable lessivé, la roche détériorée, le sable lessivé, et une matière organique qui naissait là-dedans. Donc, ça fait une sorte, en fait, de veine. Ouvrez votre main, les doigts, écartez les doigts, et c'est ça, l'île de Porquerolles. Et là-dedans, vous avez de la terre, de la matière organique. Et cette matière organique, c'est pour ça qu'elle est aussi luxuriante, et entretenue surtout par ce qu'on appelle le semi-climat tropical. En fait, on a un temps qui est pratiquement doux tout le temps. On n'a pas les piquets de chaleur qu'on a sur le continent. Mmh. Et le matin, l'été, on a une arrosée légèrement saline, parce que c'est l'évaporation qui tombe sur les plantes, qui arrose les plantes. C'est pour ça qu'on ne manque jamais d'eau à Porquerolles. Parce que la plante ne manque jamais d'eau à Porquerolles. Et là-dedans, on s'est dit, OK, maintenant je vais planter de la vigne. Comment je vais planter de la vigne? Qu'est-ce que je vais choisir comme cépage? Et pourquoi ce cépage à tel endroit, dans telle et telle parcelle? Et en fait, le Porquerolles est composé de trois sortes de terroirs. On a le premier terroir qui est un terroir salin iodé. Donc quand on déguste le vin, on a ce côté salin iodé. Porquerolles, c'est aussi un côté médiane. Et là-dedans, on va extraire beaucoup plus de fruits frais. Donc les fruits frais, comme le fruit d'été, la pêche, la mangue, la mandarine, etc., etc. Et après, on a les coteaux de Porquerolles qui sont légèrement plus hauts. Donc ce sont les coteaux rocheux. Donc eux vont extraire de fruits secs, moelleux. Donc quand on va travailler ça, et c'est ça qui est important dans l'histoire de faire le vin à Porquerolles, on va faire un mariage. Il y a des gens qui vont dire, OK, maintenant moi je vais ramasser mon raisin, cépage par cépage, je vais faire mes cuvées, et la suite, hop, on assemble le vin une fois qu'il est terminé. Moi, c'était le contraire. Il fallait ramasser dans la même parcelle le côté salin à part, le côté fruit frais à part, et le côté fruit sec moelleux à part. Et il fallait développer surtout le fruit sec moelleux à part, parce que lui, la matière qui est là-dedans, comme le raisin a moins d'eau, donc on a une concentration de matière. C'est elle qu'on appelle ça le polyphénol qui fait le vin. Il fallait la faire extraire en arrière bouche. C'est-à-dire la première attaque quand on prenait le vin, on a un côté iodé salé qui s'est exprimé, suivi par un côté sur le milieu de la langue fruit frais, et suivi en fait par un retour qui va se mélanger par une longueur en bouche d'un fruit sec mélangé avec le côté salin, et hop, ça se terminait toujours par le côté salin. Et pourquoi? Parce que le vin de Porquerolles contient énormément de sel.
D'accord. Bon, c'est très très beau ce que tu nous racontes. Et du coup, sur Porquerolles, tu es vraiment resté concentré sur les vignes, ou est-ce que tu as pu, là, avec la mer, justement, dont on entendait la chanson La mémoire à la mer au début...
Est-ce que tu peux répéter, parce qu'en fait, j'entends très mal.
Alors, je disais que ce que tu nous dis sur les vignes de Porquerolles est vraiment très intéressant, très poétique aussi. Mais du coup, sur cette île, est-ce que tu es vraiment resté concentré sur ta façon de travailler le vin, ou est-ce que aussi tu as pu, avec la mer, justement, dont on entendait la chanson La mémoire et la mer de Léo Fray, que tu as souhaité nous faire écouter. Ta relation avec la mer, finalement, c'est quoi? Que ça soit à Porquerolles ou en Palestine, justement.
Je vais rajouter autre chose. En 2002, j'ai créé avec Franck Cassanti aussi le festival de jazz à Porquerolles.
Ah oui.
Voilà, donc c'est partie prenante, importante dans la création des festivals. Après, j'ai abandonné tout simplement parce que j'avais plus le temps de travailler. Et le rapport avec la mer, je n'aime la mer que la pêche, parce que j'adore manger du poisson, mais je ne pêche simplement que mes besoins. Je ne me baigne jamais, j'étonne tout le monde, je me suis baigné qu'avec mon fils en 2005. Mais depuis, je ne me suis pas baigné. Si, maintenant, je vais à la bagnothérapie. Ça, c'est bien, ça, par contre, c'est des exercices. Après, le rapport à la mer, ça m'a toujours fait peur, parce qu'en fait, Nazareth, je ne sais pas si tu connais, c'est pas une ville qui ressemble à un amphithéâtre. Et moi, j'habite le côté est de Nazareth et le côté ouest de Nazareth, on voit la mer. Donc nous, on voyait la mer du coin, mais on ne pouvait pas aller à la mer. Parce que jusqu'en 1970, on n'avait pas de nationalité, donc on ne pouvait pas se déplacer. On était des apatrides chez nous. Et la première fois que mon frère nous a amenés à la mer, c'était en 72, donc j'avais 12 ans. Et quand j'ai vu la mer, j'ai dit, oh là là, mais c'est grand, et j'ai eu peur de mettre mes pieds dans l'eau. C'était une appréhension. En même temps, je regardais tout ce qui est possible, parce que je suis tout le temps à la recherche de quelque chose que je ne connais pas. Voilà, je regardais surtout le coquillage, parce qu'on n'avait jamais vu de coquillage. Nous, on le voyait peut-être de temps en temps la télé, et on a eu la télé en 69, et j'avais jamais vu les moules, les huîtres, ça, on connaissait pas du tout. Donc on arrive, c'était curiosité, mais qu'est-ce que font là, quoi. Après, c'est le poisson. C'est pour ça que j'adore pêcher. Parce que dès que j'ai vu le premier poisson comme il nageait, je dis, oh là là, mais ça c'est bien. Et puis après, la maladie de la pêche m'est arrivée jusqu'à présent. À Porquerolles, la seule chose qui m'intéressait, c'était octobre, novembre, décembre, ce qui est le vent d'Est. Et le vent d'Est, comme elle arrachait pas mal de ce qui se trouvait sur la roche, et puis là, on trouvait les moules, très peu de moules à Porquerolles, on trouvait les coquillages, mais ça attirait aussi de gros poissons, donc on allait pêcher là. Et moi, je vais pêcher quand le temps est agité, 7-8 forces de vent, avec un vent, force 7-8 ou bien une grosse houle.
D'accord.
Et en même temps, il y a quelque chose qui me lie à la mer, c'est la tristesse, parce qu'en fait, ça a toujours été une voie, c'est une voie pour les déplacements. Et malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, avec tous ces gens qui essayent en fait de trouver une vie hier, de se retrouver en fait au fin fond de la mer en train de se faire manger par les poissons ou bien de flotter. Et puis, moi je n'ai pas la solution pour les aider. Je pense que la solution se trouve dans les mains de ceux qui prennent des décisions. C'est pour ça que je vais faire de l'humanitaire. Dès que je me mets à la retraite, je vais faire de l'humanitaire chez eux pour leur apprendre à cultiver la terre.
Ouais.
Et à travailler en fait différemment pour qu'ils puissent rester chez eux, parce que venir aussi aujourd'hui pour tomber dans l'eau, c'est un peu triste.
Ça c'est sûr.
C'est très triste. Pardon.
C'est sûr que tout ce qu'on peut faire, en quel que soit le point du globe, pour que les gens qui sont nés quelque part s'y trouvent bien, puissent vivre normalement et ne serait-ce que se nourrir, c'est ce qu'on a de mieux à faire, et ça peut-être qu'on peut le faire effectivement. En tout cas, bon, ben, quand je suis arrivé à Porquerolles, effectivement on ne s'est pas béni, on a surtout échangé, mais tu es quand même monté sur mon petit voilier, tu te souviens, un des deux voiliers donc, qui ont créé cette fameuse route du Zatar. Et alors du coup, Samy, je sais que du coup en t'écoutant là, parler, que ce soit à chaque fois que tu parles, finalement tu es vraiment extrêmement imprégné de poésie. Donc on a écouté un très très grand poète, Léo Ferré, on a parlé bien sûr de Mahmoud Darwish, on a écouté un chanteur dont on ne pensait peut-être pas cette reconversion qu'il a eue à l'islam et toutes ces chansons qu'il a fait en donnant ses droits aux enfants de Gaza. Et alors j'ai cru entendre que tu avais toi-même composé de la poésie, mais je ne sais pas si tu es prêt à en lire un morceau ou à nous en parler.
Écoute, il faut que je sorte mon deuxième téléphone. En fait, attends, reste.
Bien sûr.
Alors, en fait, je l'ai enregistré sur YouTube. Après, je ne sais pas où je l'ai mis. En fait, sur YouTube.
D'accord. Attends.
Et oui. Ma poésie, en fait, elle se compose toujours parce qu'en fait, ce sont des échanges que j'ai fait avec mes frères et sœurs depuis le décès de mon dernier frère. Depuis en 2016, j'ai perdu un frère qui m'était très cher. Et j'ai créé un lien entre moi et frère et sœur. Parce qu'avec l'âge, on se cherche. Et on ne cherche pas, en fait, notre vie d'antan, ni les enfants, ni le jour et le quotidien. On cherche à communiquer. Donc, eux, ils m'énervaient parce qu'ils m'envoyaient toujours des sourates, de Coran, des petits poèmes qu'ils récupéraient sur YouTube, comme pas YouTube, sur... je ne sais pas où, là. C'est des textes. Quelquefois, il y en a un qui m'envoie un texte, le deuxième envoie le même, alors je renvoie à l'un, j'y mets sur l'autre qui l'a envoyé. Mmh. Mais moi, je voulais m'exprimer différemment. Donc, je commençais alors. J'écrivais déjà des poèmes avant. Donc, je commençais à écrire des poèmes à mes frères et sœurs, en parlant de mes propres sentiments. Donc, c'était beaucoup plus l'oriental, en fait. C'est un imaginaire, qui imagine, qui écrit tout ce qu'il ne voit pas. Et surtout, il ne fait pas ce qu'il écrit. C'est comme l'amour. On parle de l'amour, mais on n'accepte pas qu'on ne pratique pas l'amour physique, que ce soit quelque chose que deux personnes marchent dans la rue et sans qu'ils soient mariés, qu'ils se donnent la main. Ça, c'est quelque chose. Par contre, la chanson, on voyait, c'est l'imaginer, mais qu'on ne fait pas, on ne le pratique pas. Et ce côté, et c'est de vous le péchement, donc je commence à sortir en fait du jouer avec les mots. Et là actuellement je suis en train d'écrire un roman sur ce que je vais devenir en fait. Je n'étais pas marié avec un arabe. Je ne suis pas marié avec un arabe, d'ailleurs je ne suis pas marié du tout. Hein, parce que ça fait 37 ans que j'ai promis à ma compagne qu'on allait se marier, on ne l'a toujours pas fait. Voilà. et je pense que peut-être ce serait bien de le faire, parce que apparemment je vais mourir jeune, donc je préfère quand même qu'elle profite de ma reprise. Et puis, dans ces deux personnages, c'est toujours pas la tristesse, c'est toujours le calme, le silence, et pas de parole. Et puis, à partir de là, l'échec, la vie de l'échec. Mon échec par rapport à la Palestine, je n'ai pas avoir essayé de changer les choses quand j'étais jeune, telles que je peux les changer maintenant. En fait, il y a une rupture qui s'est faite entre moi et la Palestine. Et cette rupture, en fait, est devenue comme une photographie. À chaque fois que j'y vais en Palestine, je me rappelle de la dernière photographie. À chaque fois que j'y quitte la Palestine, j'enregistre la dernière photographie. Et c'est toujours des photographies qui s'enregistrent. Mais maintenant, avec WhatsApp, avec tous les moyens de communication, ça commence à changer. Et c'est pour ça que je suis retourné vers l'écrit, parce que j'ai voulu aussi dire à mes frères et sœurs, pas que je les aime, et des choses comme ça. J'ai voulu simplement, en fait, faire une correspondance, un monocentre, en leur écrivant sur le passé, sur l'avenir, sous la composition, le verbe, la conjugaison. Et en fait, le verbe, lorsqu'il se conjugue, il est toujours simplement pour qu'il devienne compréhensible. Et il ne faut jamais oublier qu'un verbe, lorsqu'il a l'état brut, il n'est simplement que un ensemble des lettres qui expriment un acte.
Merci Samy. Oh là là. Je crois qu'on refera une deuxième émission avec Samy, parce qu'en plus,
non, mais la prochaine fois, on sera
ensemble au studio. Oui. Et puis, on fera ensemble au studio. Mais là, parce que tu as choisi une très très belle chanson, nous on l'a écoutée, alors on va la faire écouter aux auditeurs. Mais avant, un petit mot, Philippe, il va juste nous dire un petit mot sur le festival Palestine en campagne.
Voilà, donc Samy, merci beaucoup pour tout ce que tu nous transmets, de ce que tu as pu vivre en Palestine, de ce que la façon dont tu y penses, la façon dont tu en parles. Et comme tu l'as dit, malheureusement, en ce moment, pour toi d'abord, qui est en convalescence après une lourde opération, et puis pour les gens en général, c'est compliqué de se déplacer, mais on a en Aveyron, là, comme chaque année impair, en plein milieu du mois d'août, autour du 15 août, notre ami Jean-Marie Dansette, qui se fait appeler le Philistin, hein, qui a créé cette merveilleuse petite entreprise France Import Palestine, qui permet d'importer 3 fois par an un conteneur de produits palestiniens et de le redistribuer et de permettre aux agriculteurs et aux artisans palestiniens de récupérer l'argent qui est le fruit de leur travail. Et donc moi, contrairement à toi, je ne suis pas né en Palestine, je ne suis pas allé non plus, mais je suis allé donc au Festival Palestine en campagne. Et là, Gemma, le Philistin, nous a envoyé l'avant-programme. Il est compliqué à organiser cette année, puisque d'habitude, il fait venir vraiment des gens de Gaza, de Cisjordanie. Et tu vois, dans l'avant-programme, on retrouve ce dont tu nous as parlé. On aura le témoignage d'un pêcheur de Gaza en visioconférence. On aura Sana, qui est de Ramallah et qui est la responsable des coopératives agricoles palestiniennes. On aura le témoignage de Aïssam, un Palestinien en provenance du camp de réfugiés en Syrie, qui fait une expo de peinture. On aura également, et ça je trouve ça extraordinaire, des danseurs de Dagbé, de l'association culturelle Siwar de Jérusalem, un concert de piano et violon, de la musique traditionnelle. Voilà, tout ça est en cours de finalisation, et tous ceux qui pourront se déplacer à Rodez, également à Gage-Montrosier, à côté de Rodez, le 13, le 14 et le 15 août, tous les détails sont à trouver sur le site philistin.fr. Alors peut-être que cette année, Samy, tu ne seras pas en état de te déplacer, mais donc une année impair, on espère bien t'avoir là au Festival Palestine en campagne.
Alors je vais te promettre, je vais te faire une petite surprise. J'ai discuté avec mon copain Safouane, qui est un sacré musicien palestinien, qui vit à Paris. Je lui ai un peu parlé, je lui ai dit, parce qu'en fait, quand j'écris ma poésie, et qu'on a enregistré, qu'on trouve aussi sur YouTube, avec mon nom, c'est lui qui joue de la musique. Et je lui dis, ça serait bien quand même pour qu'on puisse un jour, parce que j'ai ma nièce aussi qui est une chanteuse, qui est à Marseille. Ah. C'est dommage parce qu'elle a sa mère qui est une musicienne, qui est ingénieure, mais elle est une chanteuse aussi, et sa petite sœur. Et il y a mon fils ici, qui est en train de composer, là, elle est en train de composer une chanson pour son père, donc elle fait de rap, mais en même temps, c'est un designer, elle ne fait pas vraiment son métier. Et peut-être on fera avec la famille Abourabi, plus sa femme, quelque chose qui montrera aux gens à quoi ressemble une famille palestinienne.
Oh là là, mais dites donc, que de rendez-vous nous allons avoir. Mais, Samy,
tu... Bon, Claire, il y aura un rendez-vous gastronomique pour toi.
Bientôt, voilà. Oh, merci. Je ne peux pas le dire à tout le monde. Dis-moi, tu voulais, pour finir, on voulait écouter une chanson que tu as choisie. Est-ce que tu peux en deux mots la présenter pour qu'on puisse en passer un petit bout à nos auditeurs? La dernière chanson.
En fait, c'est une chanson d'Odi Astapi. Odi Astapi, c'est un grand maître de la musique libanaise qui s'appelle Al-Ard Ambet Asi, la terre. Est en souffrance. Et elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Ils l'ont prise, mais il n'y est plus. Mais nous, on n'a pris la terre de personne. On n'a touché personne. Et aucun jour, on est allé chercher la terre des autres. Et après, il y a une partie de révolte dans sa parole, mais ce n'est pas vraiment une révolte, c'est tout simplement c'est la colère. La colère qui s'exprime, en fait, pas par le fait d'avoir perdu, c'est de ne pas perdre. Parce qu'en fait, quelle est la chose la plus dure pour un Palestinien? C'est de perdre tout ce qu'il a. Et quand ils ont gardé les clés de leur maison, c'était surtout pour pouvoir y retourner. Parce qu'il n'y a pas plus cher que là.
Et oui, ce fameux...
Ouais, le là où on est des origines.
Le fameux droit au retour. Samy, merci beaucoup. Malheureusement, l'émission ne nous dure qu'une heure. Et si on veut écouter et on souhaite écouter cette chanson que tu nous proposes en partage. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Passe une meilleure convalescence possible. Écris, chante et puis à très bientôt. Hein, salam.
Écoutez, j'embrasse tout le monde et puis merci de m'avoir choisi.
Merci Samy.
Et puis espérons qu'il y aura une suite. Voilà.
Il y aura une suite. Merci beaucoup. À bientôt Samy.
Merci à vous. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir.
بنعملنا الشعر كلمات الشاعر رياض نجمي بتقول أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام يكفينا مقاسي وهموم وكلام أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام يكفينا مقاسي وعود وكلام طلاب المدارس وجراس الكنائس والجندي والفارس وصوات الأذان كلنا عم بيصلوا تيعن السلام عن حلمه القديم قال لي الفرج جاي من الله الكريم
الله الكريم الله الكريم
بي قال لي حكاية عن حلمه القديم قال لي الفرج جاي من الله الكريم
الله الكريم من الله الكريم
وصرت بعمر بي ويا حصر علي بعد الأمل فيه عايش بالأحلام عمري بعد ناطر أبواب السلام
أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام يكفيها مقاسي وعود وكلام أرضي عم
اعتدينا ولا أذينا حدا ولا يوم حنينا بوش اللي اعتدى
بوش اللي اعتدى
نحن ما اعتدينا ولا أذينا حدا ليوم حنينا وش اللي عتدى
وش اللي عتدى
احتلوا أراضينا وزلوا أهالينا وحطوا العلم فينا وبيحكوا بالسلام ويا سلام وسلم على سلامكم.